Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Comment ne pas décider ? Durant les jours qui suivirent, l'armée allemande s'adonna à des manœuvres d'intimidation. Hitler avait demandé à ses meilleurs généraux de simuler les préparatifs d'une invasion. Voilà qui est extraordinaire. On a certes déjà connu toutes sortes de feintes au long de l'histoire militaire. Mais celle-là est d'une autre nature. Il ne s'agit pas d'un volet de la stratégie ou de la tactique, non, personne n'est encore en guerre. C'est une simple manœuvre psychologique, une menace. Il est surprenant d'imaginer les généraux allemands se prêter à une offensive de théâtre. On a dû faire ronfler les moteurs, vrombir les hélices et puis, goguenard, envoyer tourner les camions à vide près de la frontière. À Vienne, dans le bureau du président Miklas, la peur monte. Les manœuvres font leur effet. Le gouvernement autrichien imagine que les Allemands se préparent bel et bien à les envahir. On envisage alors toutes sortes de folies. On croit pouvoir apaiser Hitler en lui faisant don de sa ville natale, avec ses 10 000 habitants, sa fontaine des pêcheurs, son hôpital, ses brasseries. Oui, qu'on lui donne sa ville natale, sa maison natale, avec ses jolis impostes en forme de coquillage. Qu'on lui donne un morceau de ses souvenirs et qu'il nous fiche la paix. Schöschnigg ne sait plus quoi inventer pour garder son petit trône. Craignant l'imminence de l'agression allemande, il supplie Miklas d'accepter l'accord et de nommer Seyss Inquart ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un monstre, rassure Schöschnigg, c'est un nazi modéré, un véritable patriote. Et puis après tout, on resterait entre gens de bonne famille. Car Seyss Inquart, le nazi, et Schöschnigg, le petit dictateur qu'Hitler tyrannise, sont presque des amis. Ils ont fait des études de droit tous les deux, ils ont feuilleté les instituts de Justinien, rédigé l'un une petite note érudite sur les choses sans maître, mystérieux objet, le juridique hérité des Romains, l'autre, un exposé remarqué sur je ne sais quel point contesté de droit canon. Et puis ils aiment la musique, follement. Ce sont des admirateurs de Bruckner et ensemble ils évoquent parfois son langage musical dans les bureaux de la chancellerie, là où s'est déroulé le congrès de Vienne, le long des couloirs où Talleyrand traîna ses brodequins pointus et sa langue de vipère. Schöschnigg et Seyss Inquart parlent de Bruckner dans l'ombre de Metternich, cet autre spécialiste de la paix. Il parle de la vie d'Anton Bruckner, de sa vie de piété et de modestie. À ces mots, les lunettes de Schöschnigg s'embuent, sa voix s'enroue. Il pense peut-être à sa première épouse, au terrible accident de voiture, aux années de remords et de tristesse. Seyss Inquart relève ses petites lunettes de scarabée et rumine de longues phrases en rasant les fenêtres du hall. Il chuchote avec une certaine émotion que Bruckner a été, le malheureux, interné pendant 3 mois. Schöschnigg baisse alors la tête. et son ami, songeur, avec au front je ne sais quel battement de veine, raconte qu'Anton Bruckner, durant ses longues, très longues et monotones promenades, comptait les feuilles des arbres, que dans une sorte d'acharnement secret et stérile, il passait d'un arbre à l'autre et voyait avec angoisse croître le nombre qui le tourmentait. Mais il dénombrait aussi les pavés, les fenêtres des immeubles, et lorsqu'il causait avec une dame, il ne pouvait s'empêcher de compter rapidement les perles de son collier. Il comptait les poils de son chien, les cheveux dépassants, les nuages dans le ciel. On qualifia cela de névrose obsessionnelle. C'était une sorte de feu qui le consumait. Ainsi, ajoute-t-il, en fixant les lustres du grand hall, Bruckner isolait ses thèmes musicaux par des ricanements de silence, et il semblerait même que ses symphonies procèdent d'un agencement savant, une succession régulière de thèmes. « On y trouve, murmura-t-il en laissant traîner sa main sur la rampe du grand escalier, des particularités d'enchaînement, obéissant à un soubassement logique si ferme, si implacable, qu'il lui fut presque impossible d'achever sa 9e symphonie. Il dut abandonner son dernier mouvement pendant 2 ans. Et son travail incessant de correction a parfois laissé derrière lui jusqu'à 17 versions d'un même passage. » Schoschnigg devait être fasciné par ce délirant système fait d'hésitation et de repentir. C'est pourquoi, peut-être, Saïs, Inquart et lui aimaient par-dessus tout de viser, comme un témoignage nous le rapporte, de la 9e symphonie de Bruckner avec ses cuivres grandioses, son silence effarant, puis le souffle de la clarinette et ce moment où les violons, lentement, crachent leurs petites étoiles de sang. Puis ils évoquaient souvent Furtwängler, son front très haut, son air très doux de musicien et cette petite baguette qu'il tient comme une brindille. Et enfin ils en venaient à Nikitsch, et à travers Arthur Nikitsch, qui a joué Beethoven sous la direction de Richard Wagner, à travers la battue très simple d'Arthur Nikitsch, mais capable de développer dans l'orchestre les sons les plus riches, comme s'il allait d'un geste minuscule et souverain libérer les entrailles de l'œuvre elle-même, des caractères d'encre de la partition, à travers Nikitsch, qui fut dirigé par Liszt, dont l'un des maîtres fut Salieri, la Providence le rendait Beethoven, Mozart, et tout au bout de leur délire, ils devinaient Hind, touchant ainsi à la plus froide misère. Car Hind, bien avant d'être l'inépuisable compositeur d'opéras, de symphonies, de messes, d'oratorios, de concertos, de marches et de danses que nous connaissons, fut un pauvre fils de charron et de cuisinière, un misérable vagabond sur le pavé de Vienne, dont on louait alors les services à l'occasion des enterrements et des mariages. Mais cette misère-là n'est pas du ressort de Schoschnigg. Non, il préfère suivre un autre embranchement et parcourir avec Liszt les salons de la Belle Époque. Pour Saïs Inquart, la promenade se terminera toutefois bien plus mal que pour Schoschnigg, et après avoir été en poste à Cracovie et à La Haye, il finira son parcours minable de comparse à Nuremberg. Et là, bien sûr, il nie en bloc. Lui qui sera un des acteurs principaux de l'incorporation de l'Autriche au Troisième Reich, il n'a rien fait. Lui qui recevra le grade honoraire de SS Gruppenführer, il n'a rien vu. Lui qui sera ministre sans portefeuille dans le gouvernement d'Hitler, on ne lui a rien dit. Lui qui sera représentant du gouverneur général de Pologne, impliqué dans la brutale pacification du mouvement de résistance polonais, il n'a rien ordonné. Lui qui deviendra enfin commissaire du Reich aux Pays-Bas et fera exécuter, d'après l'accusation à Nuremberg, plus de 4000 personnes antisémites sincères, ayant éradiqué les juifs de tous les postes à responsabilité, lui qui n'est pas étranger aux mesures qui aboutiront à la mort d'environ 100 000 juifs hollandais, il n'a rien su. Et tandis que les trompettes sonnent, mais pour lui cette fois, Il retrouve ses manières d'avocat. Il plaide. Il invoque un document, un autre. Il feuillette consciencieux des liasses de preuves. Le 16 octobre 1946, à 54 ans, lui, le fils du directeur d'école, Émile Zachtrich, qui abandonna ce nom pour un patronyme plus allemand, lui, qui avait passé sa petite enfance à Stanern, en Moravie, et avait emménagé à Vienne à l'âge de 9 ans. Voici qu'il se retrouve debout au-dessus du vide à Nuremberg. Et là, sur l'échafaud, après des semaines passées dans sa cellule, observé nuit et jour sous la lumière d'une torche éblouissante comme un soleil de glace, après avoir été dans la nuit informé de sa dernière heure, ayant descendu les quelques marches vers la cour, avancé d'un pas incertain, à la file, entre des soldats, et une fois monté sur l'échafaud en dernier, une fois mort, les 9 autres condamnés, le voici, à son tour, qui suit l'ouvreuse en trébuchant. Dans la baraque où les potences se sont dressés et qui ressemble à un mauvais hangar, Ribbentrop est passé le premier. Non plus altier comme il fut souvent, non plus inflexible comme durant les négociations du Berghof, mais accablé à l'approche de la mort, un vieillard claudiquant. Puis ce furent les 8 autres, jusqu'à son tour à lui, Arthur Seyss Inquart. Il fait un pas en direction du bourreau. C'est John C. Woods qui sera pour lui le dernier témoin. Et sous les projecteurs, Seyss Inquart, comme un papillon ébloui, aperçoit soudain le gros visage de Woods. Un rapport médical confie dans un jargon contradictoire et emprunté que Woods était quelque peu déficient. Mais qui donc supporterait, sinon d'accomplir une telle besogne? D'autres témoignages parlent d'un pauvre type alcoolique et hableur. On raconte ainsi qu'à la toute fin de sa carrière de bourreau, après 15 ans de loyaux services, il se vantait, une fois ingurgité sa dizaine de whisky, d'avoir exécuté par pendaison 347 condamnés, chiffre contesté. Toujours est-il qu'en ce jour d'octobre, il a déjà pendu beaucoup de monde. Une photographie nous le montre un autre jour, en 1946, où avec l'assistance de Johann Reichardt, lui aussi homme de sac et de corde, il procéda à l'exécution d'une trentaine de condamnés, la rangée de gauche pour Woods, celle de droite pour Reichardt, qui avait déjà quant à lui exécuté des milliers de personnes durant le Troisième Reich et que les Américains, pour les besoins de la cause, avaient recruté. C'est donc ce visage-là, rubicon, rondouillard, car la mort nous offre après tout ce dont elle dispose, qui fut pour Seyss Inquart la grande ouvreuse. Alors, il cherche ses mots. Mais où sont-ils? Terminés les galimatias de salon, les ordres, les arguments de prétoire, il ne reste rien qu'une phrase, une phrase insignifiante, des mots si pauvres qu'on voit le jour au travers et qui se terminent en une formule étrange. Je crois en l'Allemagne. Et Woods lui passe enfin un capuchon sur le visage et lui enfile le nœud coulant avant d'actionner la trappe. Et Seyss Inquart, au milieu d'un monde en ruine, disparaît brusquement dans le trou.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loup sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent, Ferre, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous voici pour la suite de l'ordre du jour de Éric Vuillard après la pause musicale. Une tentative désespérée. Mais on n'est encore que le 16 février 1938, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum. Miklas, reclus dans son palais présidentiel, cède à son tour. On amnistie les assassins de Dollfuss. Seyss Inquart est nommé ministre de l'Intérieur et la SA défile dans les rues de Litz avec de grands drapeaux. Sur le papier, l'Autriche est morte. Elle est tombée sous une tutelle allemande. Mais comme on le voit, rien ici n'a la densité du cauchemar, ni la splendeur de l'effroi, seulement l'aspect poisseux des combinaisons et de l'imposture. Pas de hauteur violente, ni de paroles terribles et inhumaines, rien d'autre que la menace brutale, la propagande répétitive et vulgaire. Pourtant, quelques jours plus tard, voici que brusquement, Chechnik s'énerve. Cet accord forcé lui est resté en travers de la gorge. Dans un ultime sursaut, il déclare au Parlement que l'Autriche demeurera indépendante et que les concessions n'iront pas plus loin. Ça s'envenime. Des membres du parti nazi descendent dans la rue où ils sèment la terreur. La police n'intervient pas, puisque Seyss Inquart, le nazi, est déjà ministre de l'Intérieur. Rien de pire que ces foules amères, ces milices avec leurs brassards, leurs insignes militaires, une jeunesse prise dans de faux dilemmes, dilapidant ses emportements dans une épouvantable aventure. À ce moment, Chechnik, le petit dictateur autrichien, joue sa dernière carte. Oh ! Il devait bien savoir pourtant que dans toute partie, il existe un stade critique au-delà duquel il devient impossible de se refaire. On n'a plus qu'à regarder l'adversaire abattre à poignée ses cartes maîtresses et récolter les plis. Les dames, les rois, tout ce qu'on n'a pas su jouer à temps et qu'on a fébrilement gardé en main dans l'espoir de ne pas le perdre. Car Chechnik n'est rien. Il ne porte rien. Il n'est l'ami de rien. Il n'est l'espoir de rien. Il a même tous les défauts, Chechnik, l'arrogance de l'aristocratie et des conceptions politiques absolument rétrogrades. Qui s'est mis à la tête 8 ans auparavant d'un groupe de jeunesse catholique paramilitaire, qui a dansé sur le cadavre de la liberté, ne peut pas espérer qu'elle vole soudain à son secours. Nul rayon de soleil ne traversera brusquement sa nuit. Nul sourire ne viendra éclore sur la face du spectre afin de l'encourager à accomplir son dernier devoir. Aucune parole de marbre ne sortira de sa bouche. Pas une particule de grâce, pas un postillon de lumière, rien. Sa face ne s'inondera pas de larmes. Ce n'est qu'un joueur de cartes, Chechnik, un piètre calculateur. Il a même semblé croire à la sincérité de son voisin allemand, à la loyauté des accords qu'on venait pourtant de lui extorquer. Il s'effarouche un peu tard. Il invoque les déesses qu'il a bafouées. Il revendique des engagements ridicules pour une indépendance déjà morte. Il n'a pas voulu voir la vérité en face. Mais à présent, la voilà qui vient à lui, tout près, horrible, inévitable. Et elle lui crache au visage le secret douloureux de ses compromis. Alors, dans un dernier geste de noyé, il va chercher l'appui des syndicats et du Parti social-démocrate, pourtant interdit depuis 4 ans. Face au péril, les socialistes acceptent cependant de le soutenir. Chechnik lance aussitôt une proposition de plébiscite sur l'indépendance du pays. Hitler est fou de rage. Le vendredi 11 mars à 5h du matin, son valet de chambre réveille Chechnik pour la plus longue journée de son existence. Il pose ses pieds par terre. Le parquet est froid. Il enfile ses mules. On lui annonce de vastes mouvements de troupes allemandes. La frontière de Salzbourg est fermée et les transports ferroviaires entre l'Allemagne et l'Autriche sont interrompus. Une couleuvre glisse dans les ténèbres. La fatigue de vivre est insupportable. Il se sent soudain très vieux, horriblement vieux. Mais il aura tout le temps de penser à tout ça. Il fera 7 ans de prison sous le Troisième Reich. Et il aura 7 ans pour se demander s'il a bien fait de mettre sur pied naguère son petit groupe catholique paramilitaire. 7 ans pour savoir ce qui est vraiment catholique et ce qui ne l'est pas, afin de départager la lumière et les cendres. Même avec quelques privilèges, l'enfermement est une épreuve terrible. Aussi, une fois libéré par les Alliés, il mènera enfin une vie paisible. Et comme si deux vies étaient possibles pour chacun d'entre nous, comme si le jeu de la mort pouvait détruire nos songes, comme si dans l'ombre de ces 7 années, il avait demandé à Dieu « Qui suis-je ?» et que Dieu lui avait répondu « Quelqu'un d'autre ?» L'ancien chancelier ira s'établir aux États-Unis et deviendra un Américain modèle, un catholique modèle, un professeur d'université modèle à l'Université catholique de Saint-Louis. Un peu plus, il aurait presque pu discuter en robe de chambre avec McLuhan de la galaxie Gutenberg. Une journée au téléphone. Vers 10h du matin, pendant qu'Albert Lebrun, président de la République française, paraphe un décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Juliénas, le célèbre décret du 11 mars 1938, et se demande, à mesure que son regard dégringole le long des battants de la fenêtre de son bureau, si vraiment les vins d'Emeringe et de Prusilly méritent cette appellation, tandis qu'il pleut, et que de petites gouttes frappent les vitres comme un morceau de piano exécuté par une main débutante. Songe Albert Lebrun dans un élan de poésie. Alors qu'il dépose le décret sur une énorme pile, un vrai foutoir, et en prend un autre, fixant le budget de la loterie nationale pour l'exercice à venir, qu'il signe depuis son entrée en fonction, car certains décrets reviennent comme les martinets dans les grands arbres des quais se poser sur un bureau chaque année. Ainsi, pendant qu'Albert Lebrun rêvasse à n'en plus finir sous l'immense égoïsme de son abat-jour, à Vienne, le chancelier Schöschnigg reçoit un ultimatum d'Adolf Hitler. Soit il retire son projet de plébiscite, soit l'Allemagne envahit l'Autriche. Toute discussion est exclue. Terminé le songe de la vertu, il faut maintenant essuyer son maquillage et ôter son costume. 4 heures interminables passent. À 14h, ayant foutu en l'air son déjeuner, Schöschnigg annule enfin le plébiscite. Ouf! Tout va pouvoir continuer comme avant. Les promenades au bord du Danube, la musique classique, le babillage inconsistant, les pâtisseries de chez Demel ou Sacher. Mais non, le monstre est plus gourmand que lui. Il exige maintenant la démission de Schöschnigg et son remplacement au poste de chancelier d'Autriche. Rien que ça. Quel cauchemar! Ça ne s'arrêtera donc jamais. À l'époque où il était prisonnier des Italiens, jeune homme, pendant la Première Guerre, Schöschnigg aurait dû lire les articles de Gramsci plutôt que des romans d'amour. Alors il serait peut-être tombé sur ces lignes. Quand tu discutes avec un adversaire, essaie de te glisser dans sa peau. Mais il ne s'est jamais glissé dans la peau de personnage. Tout au plus a-t-il enfilé le costume de Dollfuss après lui avoir pendant quelques années léché les bottes. Se mettre à la place de quelqu'un, il ne voit même pas où cela mène. Il ne s'est pas glissé dans la peau des ouvriers tabassés, ni des syndicalistes arrêtés, ni des démocrates torturés. Alors maintenant, il ne manquerait plus qu'ils parviennent à se mettre dans la peau des monstres. Il hésite. C'est la toute dernière minute de sa dernière heure. Et puis, comme d'habitude, il capitule. Lui, la force et la religion, lui, l'ordre et l'autorité, voici qu'il dit oui à tout ce qu'on lui demande. Il suffit de ne pas le demander gentiment. Il a dit non à la liberté des sociaux-démocrates fermement. Il a dit non à la liberté de la presse avec courage. Il a dit non au maintien d'un parlement élu. Il a dit non au droit de grève, non aux réunions, non à l'existence d'autres partis que le sien. Pourtant, c'est bien le même homme qu'embauchera après la guerre la noble université de Saint-Louis, dans le Missouri, comme professeur de sciences politiques. Sûr qu'il en connaissait un bout en sciences politiques, lui qui avait su dire non à toutes les libertés publiques. Aussi, une fois passée la petite minute d'hésitation, tandis qu'une meute de nazis pénètre dans la chancellerie, Schuschnigg, l'intransigeant, l'homme du non, la négation faite dictateur, se tourne vers l'Allemagne, la voix étranglée, le museau rouge, l'œil humide, et prononce un faible « oui ». Voilà, nous avons terminé pour ce soir, et nous retrouverons demain ce récit de Éric Vuillard, L'Ordre du Jour. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.